Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, Cinérama. J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue. L'année 2022 s'est terminée avec 152 millions d'entrées en France. Cela reste 26% de spectateurs en moins qu'en 2019. Or, si Top Gun est longtemps resté à la première place du box-office, il y a eu le raz-de-marée Avatar, la voie de l'eau qui a accumulé plus de 7,6 millions de spectateurs après seulement deux semaines d'exploitation. À noter qu'il n'y a aucun film français dans ce top 10. Voilà, on en a fini avec 2022 et bienvenue à 2023, puisque tu as deux films qui sont en salle depuis le 4 janvier, Guillaume.
Oui, bonjour. Alors moi, je vais vous parler de Tirailleurs, hein, de Mathieu Va-de-Pied, et Nostalgia, de Mario Martin.
Tirailleurs nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Omar Sy, qui est l'acteur principal de ce film. Quant à toi, Manu, bien c'est un film d'horreur.
Film d'horreur, Megan, une sorte de Chucky au féminin.
Quant à Marine, elle nous parlera du prix du jury Un certain regard au dernier festival de Cannes et aussi de Caravage. Mais on débute avec Nostalgia de Mario Martone et après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale et c'est Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Ne confondez pas Nostalgia de Mario Martin avec le Nostalgia d'Andrei Tarkovsky. Alors ils n'ont rien à voir et de toute façon derrière ce titre passe-partout de Nostalgia, se glisse un film non pas italien mais napolitain. Alors d'abord pourquoi passe-partout? Parce qu'il évoque à la fois tout et rien et l'on peut dire que c'est justement pour cela qu'il colle si bien au film. Car qu'est-ce que la nostalgie si ce n'est ce sentiment mélancolique qui nous prend lorsque l'on songe au passé, aux moments qui ont compté pour nous? Alors plus on y repense et plus ces moments du passé, ces supposés grands moments de bonheur où la vie était plus facile, ou tout du moins plus compréhensible et appréciable, sont en fait tels des fétus de paille volant au vent. Certains moments sont effectivement riches de sens, d'autres beaucoup moins, mais toutes ces actions remémorées, assemblées par une mémoire qui comble les trous avec la passion et l'amour, tout cela donne un sentiment de manque et donc qu'avant c'était mieux. Alors l'avant pour Felice, c'était il y a longtemps. L'avant c'était il y a 40 ans à Naples. Le voici qui revient justement sur les terres de son enfance, avant qu'il ne les quitte pour découvrir le monde et être complètement refaçonné par lui. Alors complètement, il faut croire que non, pas totalement, parce que ce qu'il a vécu il y a de nombreuses années, tous ces événements fondateurs, faits de tout et de rien, ressurgissent d'un coup alors qu'il est de retour dans sa ville natale et vont le forcer à rester, mais aussi à se reconnecter à eux. Mais entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'il faut faire, il y a parfois un monde comme entre ses souvenirs et la réalité. Alors bienvenue dans le Naples de Felice, coincé entre deux âges pas forcément compatibles.
Io ti volevo dire che sono tornato.
J'ai dit en ouverture que Nostalgia était un film napolitain et non pas italien. Alors le réalisateur s'exprime assez bien sur ce sujet, qui est bien sûr celui qui sous-tend tout le film, puisqu'il est question de Napolitain qui a quitté la terre-mère pour devenir quelqu'un d'autre aux yeux des habitants de la ville et de son passé. Alors je cite, « Être napolitain, c'est une façon particulière d'être italien. Notre ville est restée la même depuis la Grèce antique. Naples est une ville dans laquelle il y a une sorte d'abandon, un désenchantement, qui peut subitement se retourner, se renverser pour devenir un enchantement. À Naples, chanter, jouer, être comédien, c'est naturel. Chacun se dissimule derrière un masque et cache ainsi la conviction profonde que le fait d'être au monde est une condition de souffrance. Prenez par exemple Toto, l'acteur comique le plus aimé d'Italie. Il est né à Naples, dans le quartier de la Sanità. Derrière son masque, il porte une profonde mélancolie. Et donc du coup, il a choisi un acteur bien particulier pour incarner cette dichotomie, car il a demandé à Pietrofrancesco Favino, un Romain, de jouer un Napolitain. Ce choix a été fait parce que, je le recite, « Durant ses 40 ans, ce Napolitain a voyagé dans le temps et dans l'espace, un voyage qui a transformé sa langue. Donc ne pas être Napolitain pouvait être un atout pour créer ce personnage. » De toute façon, j'ai aussitôt pensé à Pietrofrancesco Favino en lisant le livre à l'origine du film. Je lui ai ensuite donné à lire en lui disant « Ce pourrait être ton film napolitain. » Et il est devenu ce qu'exigeait le rôle. Donc à mes yeux, cet acteur est l'anima, donc l'âme, comme l'était Chaplin, c'est-à-dire une incarnation féminine de l'imagination masculine. Alors que par exemple, Anya Magnani était plutôt l'animus, donc l'esprit, soit l'aspect masculin de son âme. Fin de citation. Tout cela pourquoi ? Eh bien parce que c'est évidemment capital, car c'est ce qui attire Felice dans Naples. Ben, c'est la reconstruction des liens qu'il a jadis tissés avec Oreste, son ami d'enfance et d'adolescence, qui se sont rompus subitement lorsque Felice a dû partir de Naples. Mais l'amitié entre les deux garçons n'est pas comme toutes les autres, car au-delà des 400 coups faits ensemble, ben, Felice et Oreste se sont engagés sur le terrain de la criminalité, et Oreste, en restant à Naples, a continué dans cette voie et a fait fructifier sa colère en business mortifère au grand dam de tous. Nostalgia devient alors un conte cruel sur le temps et les perceptions, où l'on se demande si le retour en arrière vaut le coup, s'il ne risque pas de tuer le présent, et si on ne préfère parfois pas se laisser étouffer par le manteau de fumée que peut constituer une nostalgie mal placée, au lieu de voir certaines vérités en face.
Nostalgia de Mario Martone est en salle depuis le 4 janvier. Alors on reste à Naples et on y est avec le Caravage qui lui est contraint en tout cas d'y rester, mais il aimerait retourner à Rome. Il tente pour cela d'obtenir la grâce de l'église. Une enquête est alors menée sur le peintre. Marine a opté pour un Michele au lieu d'un Michele, mais c'est pourtant Michele Placido donc, qui nous fait l'honneur de ce film Caravage.
Non mais bon, de toute façon ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
C'est l'un des peintres qui a créé le baroque. C'est l'artiste dont la vie dissolue est presque aussi connue que l'œuvre Caravage à son nouveau biopic franco-italien. Alors c'est un biopic qui démarre alors que la vie de l'artiste est déjà bien entamée, puisque nous suivons l'ombre, interprétée par Louis Garrel, qui est chargé d'enquêter sur l'œuvre, le travail et la personnalité du célèbre peintre après que celui-ci ait été accusé de meurtre, ce qui le condamne à vivre loin de chez lui et en permanence traqué par le frère de l'homme qui l'a assassiné.
Voi conoscete le volontà del Papa sulle immagini sacre e profane.
Michele Placido, acteur et réalisateur de Romanzo Criminale entre autres, s'attaque à un gros morceau de l'histoire de la peinture et fait le choix d'une mise en scène qui ressemble à l'œuvre de l'homme qu'il raconte. Une mise en scène qui se voudrait baroque mais qui s'avère plutôt bancale. Le baroque, c'est l'expressivité à son maximum, c'est l'outrance, et cela, transposé sur des comédiens tels que Riccardo Scarmaccio qui interprète donc le Caravage, nous donne un acteur qui roule des yeux pendant deux heures et qui semble ressentir la moindre émotion à 9,8 sur l'échelle de Richter. On vous rassure en revanche, Louis Garrel lui opte pour une placidité, un pragmatisme habituel, mais il est quand même plus qu'étrange de le voir converser en italien avec Isabelle Huppert, supposée elle interpréter la baronne Colonna qui a protégé Caravage dans sa fuite. Et même si les deux acteurs ont bien bossé leurs accents, pourquoi ne pas avoir tout simplement fait appel à deux acteurs italiens de naissance. Et puis, au milieu de dialogues pompeux qui baignent dans une tentative de lumière claire-obscure, on nous inflige quand même une fétichisation de la souffrance des femmes qui est vraiment dépassée en 2023. Si le Caravage a les cheveux crades et les tempes moites, les prostituées qu'il peint et qui sont supposées passer leur vie dans le caniveau, en revanche, elles ont les cheveux soyeux et brillants, évidemment des perruques, et la peau immaculée. Et lorsqu'une femme est défigurée par les coups de son mari, eh bien on la représente avec l'arcade délicatement ouverte et la bouche gonflée pour plus de sex appeal, car représenter une femme battue sans dents et avec le nez de travers, ce serait un peu trop réaliste et pas très joli. Et pour clôturer cet avis sur Caravage, j'ajouterai tout simplement que décidément, au cinéma, les partouzes sont toujours très mal filmés.
Ti aspetta la grazia del Papa.
Non dipingerete mai più.
Peut-être qu'un jour, eh bien, Marine reviendra avec les meilleures séances de partouze au cinéma. Nous verrons bien. En tout cas, Caravage de Michele Placido est en salle depuis le 28 décembre. C'est aussi le cas de Megan. Qui est Megan? Eh bien, c'est une cyberpoupée qui devrait être la compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Mais il y a des tâches qu'elle n'est pas prête à faire. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
J'ai conçu Megan pour aider Kedi à se sentir moins seule. Elle va te reconnaître et te voir comme son principal utilisateur. Ça va vous permettre d'être jumelées toutes les deux.
Génial! Je sais, c'est dingue, non?
Megan, ta mission est de protéger Kedi au mieux de tout dommage physique et émotionnel.
1, 2, 3, bras de fer chinois.
Il ne t'arrivera rien de mal avec moi.
C'est trop.
robot. Meghan n'est pas humaine, Kelly.
T'as pas le droit de dire ça.
Ce n'est certes pas l'originalité qui vient à l'esprit en pensant à Meghan, qui par son titre fait songer au récent Morgan du fils de Ridley Scott, mais bien son efficacité old school de série B recyclant habilement ses nombreuses références. Co-scénarisée par James Wan, cette production Blumhouse n'a certes pas la folie démesurée d'un Malignant, mais dispose de suffisamment d'atouts pour convaincre un public récalcitrant devant un cinéma de genre moribond. Alors certes, toute la mise en place est conventionnelle, mais permet de dessiner les contours de personnages crédibles, d'instaurer progressivement une ambiance parfaitement gérée, non dénuée d'émotions. Alors tout débute par un malheureux accident de voiture partant des jeux. La jeune Caddy, 8 ans, perd ses parents décédés sur le coup. Elle est envoyée chez sa tante Gemma, brillante chercheuse en robotique, dans une entreprise de jouets. Elle est en train de concevoir un prototype révolutionnaire, Meghan, avec d'ailleurs un 3 à la place du E, hein, miracle technologique, sorte de cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être l'amie la plus proche des enfants et l'allié imparable des parents. Ce clone, esthétiquement plus séduisant que Chucky hein, dans sa conception, est à l'écoute de nos gosses, observe et apprend tout en multipliant les fonctions de confident, protecteur, camarade de jeu et aussi de moralisateur. Célibataire un peu à côté de la plaque affectivement, débordée de travail, Gemma ne se sent pas capable d'assumer son rôle de parent de substitution. Elle décide donc de lier Meghan, encore en développement, à Caddy, toujours sous le choc du drame. Alors très vite, les liens entre la poupée et la petite fille dépassent les espérances de réussite d'un point de vue technique, mais Meghan commence à développer une autonomie qui, vous le devinez sans peine, aura des conséquences catastrophiques.
Pourquoi tu fais le contraire de ce que je viens de te demander ?
Des études ont montré que si on force un enfant à manger des légumes, il aura moins envie d'en manger une fois devenu adulte.
T'es sûre ?
Oui. Les experts disent qu'il vaut mieux laisser son enfant choisir. On appelle ça le partage des responsabilités.
Caddy, il va falloir que tu ailles à l'école.
J'ai le droit d'amener Meghan ?
Tu sais très bien que ce n'est pas possible.
Alors ce sera sans moi.
S'il te plaît, Caddy. Oh, excuse-moi, t'en vas pas comme ça. Non, attends.
Lâche-moi !
Oh, hé, hey, qu'est-ce qui te prend ?
Je te dis de me lâcher !
Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Calme-toi, arrête !
Lâche-la maintenant !
8 ans après l'intéressant Husband, hein, le néo-zélandais Gerard Johnson hein, revient derrière la caméra pour un spectacle plaisant, équilibre bien dosé entre méchanceté assumée et mélancolie sur l'impossible deuil. Par ailleurs, toute la première partie n'est pas sans rappeler Small Soldier de Joe Dante, entre les scientifiques naïfs mais un brin irresponsable et les promoteurs avides de succès à tout prix, quitte à brûler des étapes dans la confection du jouet parfait. Et comme chez Dante, il s'agit encore de raconter l'histoire d'un dérèglement dont les premiers fautifs sont issus du comportement des adultes ou, comme c'est le cas ici, lors d'une séquence bien jouissive d'un gosse adoptant une attitude de futur psychopathe. L'une des grandes réussites du film tient au design particulièrement soigné de cette poupée alternant synthèse et animatronique, comportant son lot de séquences impressionnantes, dont un hommage délirant au Kaiju Eija, hein, les films de fantômes japonais. La désarticulation très graphique de Meghan offre quelques instants de pure trouille bien distillée. Alors la mise en scène fonctionnelle mais élégante hein, sert un scénario bien écrit, malgré quelques longueurs dans sa première heure avant le déchaînement final, qui n'a rien à envier au meilleur opus de la saga de Chucky. Alors le film n'a que très peu recours au jumpscare et préfère installer tranquillement son ambiance plutôt que d'aligner les plans cut, plaie du cinéma horrifique actuel. Certes, le climax final est un peu décevant et surtout déjà vu dans une sorte de variation expédiée de Terminator. Passer ce petit bémol, hein, Meghan, hein, sans rien révolutionner, est un formidable petit film d'horreur, hein, fort bien interprété par la toute jeune Violette McGraw, très émouvante, qui forme un couple saisissant avec la cyberpoupée, la plus classe que l'on ait pu voir sur un écran. Et pas de doute, si le succès est au rendez-vous, hein, il est probable qu'une suite soit envisagée, si ce n'est déjà fait. Hein, pour les salles de cinéma ou pour les plateformes, nouveau refuge des anciens direct to vidéo.
Meghan est un film estampillé 2022 à la fin de l'année. Retour maintenant en 2023 avec Tirailleurs de Mathieu Vatpied dans lequel Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans qui lui a été recruté de force, envoyé sur le front. Père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. C'est toi Guillaume qui va nous en parler et puis ensuite on jouera un blind test autour de la filmographie d'Omar Sy.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
Nous sommes en 1917, donc Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thiernot, son fils de 17 ans qui a été recruté de force. Envoyé sur le front, un père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble, mais aussi celle qui gronde en eux. Alors, galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thiernot va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Voilà pour le résumé officiel de Tirailleurs, un film donc de guerre et historique, signé Mathieu Va-de-Pied et consacré à la douloureuse et difficile position des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Donc soldats souvent enrôlés de force, ne comprenant pas forcément pourquoi ils se battaient ni pour qui, ils vécurent parfois en première ligne les horreurs qui marquèrent le début du siècle et redessinèrent la carte géopolitique du monde. À la base, un tirailleur part d'un postulat fantasque propre à la fiction et carrément tout désigné pour le cinéma. Ici, le soldat inconnu, donc cette sépulture installée à Paris sous l'Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1920, accueillant le corps d'un soldat mort lors de la Première Guerre mondiale et reconnu français pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France au cours de l'histoire, eh bien, et si ce soldat inconnu était un tirailleur ? Donc c'est une idée romanesque plutôt séduisante qui va permettre de donner un visage à l'un de ces tirailleurs et avec lui toute une histoire permettant de rappeler que derrière les uniformes se trouvent des hommes qui, souvent, rencontrent l'histoire avec perte et fracas.
Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
En position,
arrêtez.
Plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous la remplaciez.
Jafudam, Kunodo, on a un tajat.
Je souhaite une moussadale.
On est lié de tout le monde à la salle de table.
Tiens, je vais me détenir.
L'idée de racine, mais surtout de filiation, est au cœur de Tirailleurs. Donc plutôt que de partir sur un discours sur les colonies et le poids de l'histoire et de les éclairer à la lumière d'une grille de lecture analytique moderne quelque peu déconnectée et forcément polémique à cette époque d'exacerbation communautariste, le film de Mathieu Va-de-Pied décide de coller au plus près de Bakary et Thiernot, un père et son fils qui s'aiment mais ne se comprennent pas et qui vont découvrir dans la peur, le sang et l'adversité la véritable nature des liens qui les unissent. Thiernot rejette son père et cherche en même temps à devenir un homme, et le terrain de la guerre semble être tout tracé pour lui. Les violences de l'histoire pourraient être profitables, si l'on peut dire, à l'un par rapport aux réserves de l'autre. Bakary, lui, n'en a que faire de ce conflit et souhaite s'enfuir par tous les moyens et voir son fils vivre dans un environnement apaisé où il sera mieux intégré. Thiernot, lui, monte en grade par la force des choses, donc en fait surtout la mort de ses camarades au fur et à mesure, et s'imagine être plus grand que ce qu'il n'est, dans un endroit qui broie absolument tout le monde. Il pense que son père, en plus d'être un donneur de leçons, est un lâche qui, lui, n'arrivera jamais au bout de ce qu'il ne pourra accomplir. Donc ce dilemme cornélien, déjà très intéressant, est contrebalancé par l'exact même, mais à l'envers, du côté des commandants. Le jeune lieutenant Chambon, que l'on comprend être du même âge que Thiernot, essaie par tous les moyens d'exister aux yeux de son père, qui ne voit en lui qu'un incapable qui pourra jamais briller. Ce combat pour fuir, mais aussi conquérir le cœur de son père, pouvait être passionnant et avait toute la force dramaturgique nécessaire pour impliquer n'importe quel spectateur, mais l'écriture lacunaire, le rythme totalement haché, la mise en scène inexistante et la qualité toute relative de l'interprétation explosent nos espérances et notre enthousiasme. Tirailleurs est terriblement mou et passe à côté de toute l'intensité de son sujet, mais se termine sur une idée poétique qui élève un petit peu le film et la tiédeur dans laquelle on a baigné pendant presque 2 heures et empêche qu'on peste un peu trop une fois que le générique de fin est lancé.
Tirailleurs de Mathieu Va-de-Pied est en salle depuis le 4 janvier. Alors d'habitude, quand il y a un film sur la guerre, on fait souvent des blind tests avec des films qui parlent de la guerre, qu'il s'agisse de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, on a choisi de s'intéresser à l'acteur de ce film, c'est Omar Sy.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il ? C'est une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Omar Sy, c'est plus de 20 ans de carrière pour l'acteur de 44 ans. Le principe du blind test, 5 extraits. Il faut deviner les titres. Premier extrait.
Bonjour, monsieur.
Attendez, il y a quelqu'un qui parle français dans cet hôpital ?
Quel est le problème ?
Le problème, c'est que ça fait une heure que je demande un médecin. Pas un infirmier, ni un brancardier, ni un ambulancier. Je veux voir un médecin.
Je suis médecin, monsieur.
Écoutez, monsieur, c'est pas compliqué, hein. Vous n'allez pas me ramener tous les employés de cet hôpital, non ? Je veux voir un médecin. Et mais je ne bougerai pas d'ici tant que ma mère n'aurait pas été vue par un médecin. C'est clair ?
Calmez-vous, monsieur.
Non, je me calme pas. J'en ai marre. C'est toujours la même chose dans les hôpitaux.
Je vais m'occuper de votre maman.
Médecin,
je suis à terme. Monsieur.
Allez, bouge, cousin.
Tu as la somme, ta putain de gueule ! Je suis médecin, je te dis. Qu'est-ce qu'il a ? Vous avez jamais vu un médecin noir ? Mais regardez-moi bien, c'est fait, je suis médecin interne et noir. Ça dérange quelqu'un ? Parce que si ça vous dérange, je vous emmerde toutes.
C'est trouvé.
Manu. Et c'est tellement proche.
Oui. Film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors, il n'a pas le rôle principal, mais bon, voilà, il l'aura ensuite avec Intouchable, hein, avec le même duo de réalisateurs. Comme tous les samedis soirs, Nathalie et Alain sont invités à dîner chez Jean-Pierre, le frère de Nathalie, mais Alain n'en peut plus, il ne supporte plus de se rendre à Créteil toutes les semaines. Le repas traditionnel tourne rapidement au cauchemar, et donc Omar Sy a le rôle d'un interne de médecine. 800 000 entrées en France pour ce film datant de 2009. Nouvel extrait.
Allez, viens, on voit du monde, on boit un coup. Pourquoi tu ris jamais ?
Je ris dans ma tête.
Mais t'aimes rien ?
On n'aime pas les mêmes choses, c'est tout.
D'accord. Alors t'aimes quoi ? Vas-y, je t'écoute. T'aimes pas les cartes ? T'aimes pas les dés ? T'aimes pas trop manger ? Voir, ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles ? Quoi ? Si ? T'as une amie ? Tant mieux. Je suis content pour toi. Et ton argent, Georges ? C'est quoi le mystère ?
Ça y est, t'as fini.
T'es toujours sapé pareil. T'en fais quoi, ta monnaie ? T'as une famille cachée ? Ah, ça y est, j'ai trouvé. T'entretiens un groupe de vieux clowns à la retraite. C'est ça ?
Alors, ça n'a pas été trouvé dans le studio. C'est un film inspiré du livre Chocolat, Clown Nègre. Donc, l'histoire oubliée du premier artiste noir de la scène française, livre de Gérard Noiriel. Alors, le film, signé Roche Dizem, retrace, en prenant quelques libertés quand même, l'histoire de cet artiste hors du commun. Film de 2016, et là, on entend un duo avec James Thierry, excellent circassien. Voilà, on peut le présenter comme ça. De César, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour James Thierry, qui n'est autre que le petit-fils de Charlie Chaplin, et aussi le César des meilleurs décors, 1,8 million d'entrées en France. Troisième extrait de ce blind test consacré à Omar Sy.
Axel Follet dans le film de Beverly Hills, ça s'en jette. Alors que Joss Beaumont, c'est pas un nom de flic, ça. C'est le nom d'un ministre des Dom-Tom. C'est pas crédible.
Mais Joss, c'est pour Jocelyn, Beaumont.
Oui, mais Jocelyn, c'est pire.
Attends, le professionnel, c'est une référence pour tous les flics de France, mon vieux.
D'accord, mais pas tous, non. Non. Axel Follet, ça c'est une référence. Ça c'est une référence, le mec qui s'impose partout juste avec sa tchatch. Ouais. Ça c'est la classe.
Joss Beaumont, il a deux nanas.
Et alors ?
Le mec a deux meufs et elles se connaissent.
Mais c'est pas vertueux d'avoir deux meufs. Mais toi, tu respectes ça, toi.
Mais quoi ?
Mais t'es vraiment tordu comme mec. C'est que ça, c'est respectable.
Mais c'est
de la merde.
C'est
aucune éthique. Aucune éthique,
c'est
le mec.
Époque.
Mais quelle une époque ? C'est de la polygamie.
La polygamie. Et ça, c'est toi, pas respectable. Ouais, c'est toi qui aimes faire la morale sur la polygamie.
Ouais,
on est mort de
bien
rire.
Sûr. Ça veut dire quoi, ça ?
Ah bah, on est mort de
n'importe quoi, toi.
Ça a été trouvé.
Et c'est de l'autre côté du périph.
De David Charron, film de 2012 avec Omar Sy et Laurent Lafitte qui lui donne la réplique. Éponine Chaligny, épouse de Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, est retrouvée assassinée à Bobigny en banlieue parisienne. Et deux flics au style opposé sont sur l'enquête qui les mène de chaque côté du périph. 2,2 millions d'entrées en France. À noter que ça a donné une suite loin du périph, une suite signée Louis Leterrier, qui a été tournée pour Netflix et diffusée en 2022. Quatrième extrait de ce blind test consacré à Omar Sy, il faut trouver le titre.
Gloria m'a demandé de voir sa mère.
Bah, démerde-toi pour trouver la vraie.
Elle en a rien à foutre, la vraie, tu le sais. J'ai tout fait pour la trouver, elle répond aucun des mails de Gloria.
Bah alors, tu dis la vérité à ta fille, putain.
J'ai pas envie de la rendre malheureuse, tu peux entendre ça ?
Ah bon, ouais. Et tu crois que t'es le seul à t'inquiéter pour elle, c'est ça ? Hey. Oh, j'étais là, moi. Pour ses premiers pas, ses premières dents, ses premiers mots. Je suis peut-être pas son père, mais je l'aime autant que toi. Elle va bientôt avoir 9 ans. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années. Et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse.
Je sais. Mais ça me fait flipper.
Bah, je suis pas en train de te dire que c'est facile, mec. Je te dis juste qu'il faut le faire. Donc ce soir, t'arrêtes d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille.
Alors, ça n'a pas été trouvé dans les studios, mais peut-être que vous avez trouvé, chers auditeurs. Ce film relate l'histoire d'un père, donc Omar Sy, qui élève avec l'aide d'un ami sa petite fille que sa mère a abandonnée à sa naissance et qui vient la reprendre 8 ans plus tard. Un film de 2016, film d'Hugo Gélin, Demain, tout commence. 3,2 millions d'entrées en France, hein, tout de même, pour ce film qui n'a pas été vu dans ce studio. Dernier extrait de ce blind test.
Moi, quand je rentre le soir, je reste sur le palier. J'attends que la lumière s'éteigne. Je me dessape et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Je la laisse sur le seuil. C'est con, hein ? Ben, c'est lequel but ? Quand je m'habille, je fais toujours attention à ce que mon caleçon soit pas trop moche. Histoire d'être présentable au cas où, si je devais finir la journée sur une table d'autopsie. C'est aussi con, hein.
trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Police.
Oui, film d'Anne Fontaine de 2020 avec Omar Sy qui, là, donne la réplique à Grégory Gadebois et on n'oublie pas Virginie Efira. Tous les trois sont flics hein, et se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière et sur le chemin de l'aéroport, eh bien, Virginie, interprétée par Virginie Efira, comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays et face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Ça n'a pas bien fonctionné dans les salles, 191 000 entrées seulement en France. Ainsi s'achève ce blind test donc consacré à la filmographie de Omar Sy qui est actuellement dans Tirailleurs. Nous terminons l'émission avec le prix du jury Un certain regard au dernier festival de Cannes. C'était pour le film pakistanais Joyland de Saïm Sadiq.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Haider est un jeune homme qui vit dans une cellule familiale un petit peu particulière avec son frère, sa femme et leurs quatre filles, avec leur père, patriarche autoritaire, et sa jeune femme à lui, Mumtaz, qui aimerait bien continuer à travailler au lieu de rester à la maison comme sa belle-sœur. Haider, sans travail, fait honte à sa famille qui lui fait bien sentir et finit en désespoir de cause par accepter d'être danseur dans un cabaret érotique, cabaret où il rencontre la charismatique Madame Biba. Non, non, non. C'était le prix de la sélection cannoise Un certain regard, sélection que l'on affectionne beaucoup à Cinérama et qui fait toujours la part belle aux découvertes cinéphiles. Et Joyland a également reçu la Queer Palme de Cannes 2022, une palme qui récompense les films abordant des sujets en rapport avec les communautés LGBTQIA+. En dehors du fait de venir du Pakistan, un film dont peu de films nous parviennent, hein, Joyland a l'immense mérite d'aborder un sujet très spécifique, la place des personnes transgenres dans ce pays traditionnel et musulman. Le réalisateur Saïm Sadiq explique avoir conscience des préjugés qui entourent la vie des personnes transgenres dans son pays, et pourtant il réfute l'existence d'une transphobie d'État en disant notamment, je le cite, que il existe une violence réelle envers les personnes transgenres dans son pays, et en même temps, eh bien, le Pakistan a également mis en place une loi particulièrement moderne en 2018, autorisant chaque individu à s'identifier par son genre, y compris un troisième genre, une loi que l'on n'a même pas en France quand même, rendez-vous compte. La grande force de Joyland, eh bien, c'est son scénario, un scénario intelligent, maîtrisé et foisonnant qui aborde beaucoup de thèmes à la fois universels et vus au travers du prisme de la société pakistanaise. On y parle de la vie, ou plutôt de la survie des personnes transgenres, mais aussi de ce que cela représente d'être un homme, d'être une femme. Il est question de relations filiales, maritales, amicales, sans jamais que l'on ne s'appesantisse sur aucun de ces sujets. La mise en scène également de Saïm Sadiq est assez miraculeuse. Les plans sont magnifiques, mais ils sont également profondément signifiants. Et ils ont une force assez étonnante. Les deux comédiens principaux sont excellents, même si, et c'est aussi l'une des belles performances du film, les seconds rôles existent, hein, et même de façon assez complexe. Les noms des deux comédiens principaux, Ali Junejo et Alina Khan. Alina Khan qui interprète le personnage de Biba en étant elle-même une femme transgenre. Un choix de casting qui est important en 2022. Voici pourquoi. Les personnages transgenres sont encore trop souvent interprétés par des comédiens et comédiennes cisgenres. Or, c'est problématique car les comédiens transgenres restent extrêmement mis de côté dans l'industrie du cinéma. On ne leur donne que très peu de rôles et il serait donc équitable qu'ils se voient confier à minima des rôles de personnages transgenres dans les productions cinématographiques. Heureusement, c'est de plus en plus le cas. Et lorsque c'est en plus dans des films aussi excellents que Joyland, on ne peut que se réjouir de cette avancée des choses.
Joyland de Saïm Sadiq est actuellement en salle.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras deux films, Guillaume.
Oui, j'ai l'Immensità de Emanuele Crealese et Terrifier 2 de Damien Léon.
Quant à moi, eh bien, je vous parlerai des Cyclades et j'aurai le plaisir eh bien, de vous faire écouter Marc Fitoussi, le réalisateur, et puis Olivia Cotte, une des actrices de ce film. À la semaine prochaine.